ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Bonjour, je m'appelle Virginie Jéga, je suis assistante sociale au CRAIF, le centre de ressources autisme Île-de-France. Vous vous apprêtez à remplir un dossier de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Pour vous aider dans la saisie de ces informations, nous allons parcourir ensemble toutes les pages du dossier et nous nous arrêterons sur certains points qui méritent plus de vigilance.
Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment remplir son dossier de MDPH ou Maison départementale des personnes handicapées. Tout d'abord, pour obtenir ce fameux dossier, vous pouvez le télécharger généralement sur le site de la MDPH de votre département. En fait, ces dossiers vous permettent de faire plusieurs types de demandes. Des demandes d'aide humaine, pour avoir une tierce personne par exemple, une aide à domicile. Des demandes d'aide technique, pour acheter un fauteuil roulant, pour la baignoire, pour la salle de bain, pour la cuisine, tout autre type d'aide dont la personne peut avoir besoin au quotidien. Et puis des aides financières qui sont par exemple pour vous aider à payer votre logement ou l'allocation d'adultes handicapés. Alors comment remplir ce dossier MDPH?
Si vous avez besoin d'être accompagné pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous rendre à l'accueil de votre MDPH et rencontrer un agent. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une assistante sociale ou vous rapprocher d'une association de patients. Ce dossier, il est composé de plusieurs éléments importants. Une partie médicale qui va être remplie par le médecin qui vous connaît le mieux et qui pourra le mieux décrire les conséquences de votre pathologie dans votre vie quotidienne. Une partie formulaire administrative que vous allez vous remplir directement pour faire état de vos difficultés au quotidien et de vos besoins de compensation. Et pour qu'il soit complet administrativement et recevable, vous devrez joindre à ces deux documents CERFA une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous avez une mesure de protection des majeurs, une copie du jugement. Donc il faut qu'il ait été rempli moins d'un an avant la date du dépôt de dossier auprès de votre MDPH.
Eh bien, salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du Mike qui commence. Aujourd'hui, on va parler de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Ce guichet unique qui permet aux personnes en situation de handicap de demander des aides et des droits adaptés à leur situation. C'est par ce biais que l'on peut par exemple obtenir l'AH, l'allocation adulte handicapé, ou une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou des cartes de mobilité. Mais derrière ce formulaire, le CERFA 15692-01, il y a plus qu'un simple papier. Il y a des vies, des parcours, des batailles pour faire reconnaître ce que l'on vit, ce dont on a besoin et ce dont on a droit. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, de l'intime et du politique, avec quelqu'un qui accompagne les personnes dans leur démarche et qui connaît les obstacles et les frustrations, mais aussi les formes de résistance et d'entraide qui se construisent à travers ce processus. Pour nous en parler, je reçois Lila Cab, qui propose des ateliers découverte de dossiers MDPH, notamment au local Picmil. Bonjour.
Bonjour.
Écoute, bienvenue à toi, bienvenue au MAG.
Merci.
Alors attends, petit effet spécial. C'est un test de résistance pour voir combien de temps on peut tenir.
La musique de ouais. Lacaf, on l'adore.
Bon. Ah pétard, j'en peux plus. Allez, c'est bon, j'en peux plus quoi. Avant d'entrer dans les dossiers MDPH, est-ce que tu peux nous raconter comment cette question est entrée toi dans ta vie concrètement? Quelles émotions te submergeaient et si c'était pour toi de la confusion, de la peur, de la violence symbolique ou le sentiment d'être jugé?
Du coup, moi j'ai découvert un peu le dossier MDPH en 2022. J'ai des douleurs chroniques depuis l'enfance et aussi des difficultés sociales, de communication, etc. Et depuis 2020, j'avais capté que j'étais sans doute autiste et TDAH. Et en 2022, j'ai découvert le nom de la maladie génétique que j'ai qui me provoquait des douleurs chroniques. C'est un peu le premier moment où je me suis dit ok, en fait, peut-être que tu vas pouvoir bénéficier des aides de la MDPH. Et j'ai ouvert le dossier du coup pour la première fois. J'ai fini par le remplir seulement en 2025 parce que c'est long ce processus.
ça a mis combien de temps par toi entre le moment où tu as le dossier dans un coin, je sais pas quoi, dans un bureau ou ça traîne quelque part chez toi? Et quand tu décides vraiment de t'y plonger dans ces fameuses 20 pages-là?
Ça a mis deux ans et demi. Le temps d'obtenir les diagnostics que je pensais être nécessaires pour faire le dossier, et aussi le temps de juste m'y mettre, quoi, de dépasser la peur. Voilà, parce que du coup, tu me demandais les émotions que j'avais ressenties, et la première, c'est la peur. Tu te dis, ça va être une montagne administrative de malade, parce que le dossier, il est assez long à remplir, il est complexe. T'as peur que si t'écris le moindre truc pas dans le bon sens, tu risques de perdre toutes tes aides, de perdre la moindre chance d'obtenir la hache ou ce que tu demandes. Du coup, c'est terrifiant. T'as de la confusion aussi parce que, enfin, il y a des mots compliqués. Même s'ils essayent de le simplifier au maximum, ce dossier, ça reste. Faut bien tout lire, faut bien tout comprendre. Comprendre aussi ce qu'ils veulent dire par certaines choses, parce que ils vont mettre des cases très spécifiques à remplir, par exemple sur tes capacités de mobilité. Et en fait, faut comprendre un peu l'implicite qu'il y a derrière, ce qui est pas forcément facile quand t'es autiste comme moi. Donc il y a vraiment aussi tout un processus de réflexion et de regarder ta vie. Est-ce que moi j'ai ça? Est-ce que ça rentre dedans? Il y a aussi pas mal de violences symboliques qui est, je pense, pas volontaire de la part de la MDPH, mais qui est juste un reflet de la société capitaliste et productiviste dans laquelle on vit, où en fait tu te rends compte dans le dossier qu'un peu tout est basé sur ton autonomie et ta capacité à produire. Genre, est-ce que tu peux t'occuper de toi-même et est-ce que tu peux travailler? C'est un peu les gros volets de ce dossier. Et du coup, tu te dis, mais en fait, si je suis un minimum autonome et un minimum capable de travailler, est-ce que je mérite pas d'avoir de l'aide?
Faire ce webinaire qui s'appelle « Comment remplir les dossiers MDPH ». Donc, nous allons faire un focus sur la PCH pour les personnes atteintes de troubles mentaux, psychiques, cognitifs ou du neurodéveloppement.
Déjà, l'MDPH a été créé grâce à la loi 2005 pour l'égalité des droits des chances et participation citoyenne des personnes handicapées et a introduit les principes des compensations. La compensation, c'est un ensemble d'aides et prestations qui permettent de pallier à des difficultés liées à l'handicap. Par exemple, on est autiste, on a des difficultés et des anxiétés à prendre les transports en commun, et la compensation, ça peut être une carte mobilité, inclusion, qui permet de s'asseoir dans des places attitrées.
On en parle beaucoup en ce moment, et c'est vraiment le pouvoir d'agir de quelqu'un, l'importance de l'autodétermination dans la présentation de votre dossier.
Oui, d'un côté, c'est très important d'écouter les professionnels, les personnes qui nous entourent, mais de l'autre côté, c'est important aussi de s'écouter eux-mêmes, du coup, prendre du temps pour réfléchir sur son propre projet personnel et ses envies et les besoins de la personne liés à le propre mode de vie. Parce que ça permettra d'ajuster les aides en fonction des options qui sont disponibles et qui doivent aussi se lier et se connecter à le propre mode de vie. Par exemple, Marie, qui vit chez ses parents pour travailler son autonomie, souhaite intégrer un dispositif d'habitat inclusif.
En fait, j'ai l'impression sur l'idée de ce parcours, avant de résumer à un dossier, c'est aussi l'apprentissage de qui on est soi. T'as mis aussi du temps, en fait, toi, à te dire ou t'imaginer porteuse d'handicap, puisque je l'accepte, que ce soit accepté par les autres. Et là, tu rentres dans des cases, on rentre dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire, toi, ce que tu vis au quotidien dans sa complexité, tu dois un peu le simplifier. C'est aussi une mise à nu.
Ouais, complètement. Cette acceptation du handicap, déjà, comprendre qu'on est handicapé, c'est toute une épreuve. Moi, je parlais du fait que j'avais des douleurs chroniques. C'est tellement normalisé dans notre société d'avoir mal quand on va au travail. Tout le monde a mal au dos qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, non, c'est complètement anormal. Le seuil de douleur normal, en fait, c'est zéro. Et quand tu grandis avec ça, tu ne sais pas que les autres n'ont pas mal. Et d'autant plus avec le type de maladie que j'ai qui est un énorme facteur génétique. Où en fait, moi j'ai grandi dans une famille où tout le monde avait mal, donc en fait c'était normalisé. Et c'est qu'en grandissant, en me renseignant, en faisant des recherches aussi par moi-même, que j'ai compris que, en fait, non, ce que je vivais, c'était pas normal, que marcher 5 minutes, c'est pas censé être douloureux. Se tenir debout, c'est pas censé être douloureux. Et à partir de ce moment-là, tu commences à dire « Ok, il y a un truc qui va pas. » Mais en plus, quand t'es enfant, on te dit « C'est des douleurs, c'est l'adolescence, quoi, ça va partir. » Et puis t'arrives à 18 ans et c'est toujours là. Donc tu dis « Ok, c'est pas des douleurs de croissance, il y a un truc qui va pas. » Et c'est que, ouais, quand tu commences à faire des recherches, à regarder potentiellement quelle maladie j'ai, que tu te dis « Ok, c'est pas juste moi. » Et il y a peut-être un truc, et peut-être que en fait, je suis en situation de handicap. Entre le moment où tu te dis ça pour la première fois et le moment où tu commences à l'accepter et voire à te revendiquer comme une personne handicapée, il y a du temps qui se passe.
Ça dit quelque chose de notre société, justement, sur la tolérance à la douleur, puisque bah, on accepte que le travail induit de la douleur. Enfin, juste ça, on pourrait s'arrêter et réfléchir à cette notion-là, rapport au productivisme et au capitalisme mortifère. On accepte de perdre des points de vie. Tu bosses dans le BTP, les gens savent qu'ils vont mourir du fait de leur travail. Voilà, remplir ce type de dossier, c'est une porte d'entrée, en fait, sur des questionnements intimement politiques. Là, pour le coup, quoi. La place du handicap, la notion de handicap, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Si on prend ce dossier, à quoi ça sert, alors, réellement?
Ça sert à obtenir nos droits. En France, les personnes handicapées ont une certaine quantité de droits qui ont été définis après la loi du 11 février 2005. C'est la loi qui dit, par exemple, que les bâtiments sont censés être accessibles aux personnes en mobilité réduite. Loi qui n'est pas appliquée concrètement...
On rembobine l'histoire avec les mots de Jacques Chirac.
Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de faire du handicap, qui est une réalité de la vie, une réalité pleinement reconnue par la société.
L'ancien président avait un souhait, promouvoir une société plus inclusive avec trois piliers dans cette loi. D'abord, un droit à la compensation, autrement dit, les aides financières, humaines et techniques. Deuxième pilier, l'accessibilité dans les espaces publics, mais aussi les transports. Troisième volet, l'inclusion et la participation pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés et l'emploi.
Deux décennies plus tard, les grands espoirs sont en partie déçus. On est loin du compte. À entendre les associations et rien qu'à l'Assemblée, il y a encore beaucoup à faire.
Nous ne pouvons que constater que cette journée ne revêt nullement les couleurs de la célébration, mais bien celle d'un retard affligeant dans tous les domaines.
Le handicap reste un motif majeur de discrimination.
Le résultat est dramatique. La précarité des personnes handicapées est une réalité.
Comment ce gouvernement compte-t-il honorer enfin la promesse d'égalité républicaine et surtout avec quels moyens?
La loi de 2005 était là-dessus très, très claire. L'accessibilité, c'est tout type de handicap. Alors les rampes, l'accessibilité pour les fauteuils roulants, mais c'est aussi pour les personnes aveugles, les personnes avec un handicap mental. Donc ça pose des questions aussi de formation, de sensibilisation, etc. Les chiffres sont mauvais. De toute manière, on n'a pas, et dans aucun domaine, respecté les promesses de la loi. C'est particulièrement vrai sur la question de l'accessibilité. L'aspect qui structure une vie d'une personne. Si on ne peut pas aller voir ses amis, si on ne peut pas aller dans un commerce, si on ne peut pas se loger... aller travailler aussi. Donc on voit bien que si on ne fait pas l'accessibilité, c'est des personnes qui sont sacrifiées.
À travers ce dossier, on peut demander des aides humaines, des aides à domicile, des aides pour faire les courses, etc. Et on peut demander des aides financières et aussi des aides au niveau du travail et de l'éducation. Pour les enfants, tu peux obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui va te permettre, si tu as envie, de scolariser ton enfant dans un établissement spécialisé. Tu peux demander la prestation de compensation du handicap qui va te permettre de payer ses aides, l'AESH qui va s'occuper de ton enfant à l'école. Tu peux demander une orientation vers un établissement ou un service médico-social si c'est l'envie, parce que ça doit pas être une obligation. Et à un projet personnalisé de scolarisation. Et pour l'adulte, le truc qu'on connaît le plus, c'est la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui va nous permettre d'obtenir des aménagements dans le cadre du travail, et qu'il faut le dire, n'est pas une obligation de montrer à son employeur. On peut très bien garder ça secret et au bout d'un moment le révéler montrer sa RQTH ne signifie pas qu'on doit aussi dire quel est notre handicap. Il y a quand même des protections qui sont mises en place autour de statut. On peut demander une orientation professionnelle vers notamment obtenir l'obligation d'emploi qui nous permet d'avoir des emplois à destination de personnes en situation de handicap. Notamment, par exemple, si on va à Cap Emploi, qui est le France Travail des personnes handicapées. Il y a très peu d'offres, soyons honnêtes. On peut aussi obtenir une orientation vers un établissement médico-social aussi, si on le veut. On peut obtenir l'allocation adulte handicapé, la fameuse, qui nous permet de recevoir 1000 euros tous les mois. Incroyable. On peut demander la prestation de compensation du handicap, qui est encore une fois un peu plus d'argent pour avoir des aides en plus. C'est pour compenser en fait tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et enfin, on peut obtenir la carte mobilité inclusion. Il y en a plusieurs. Il y a celle avec la mention stationnement, celle avec la mention priorité et la mention invalidité. Elles te permettent d'obtenir des droits différents. La priorité, c'est la plus basique. C'est celle que j'ai où en fait, ce que ça me permet concrètement de faire, c'est de sauter les queues. Je passe en priorité dans les caisses. C'est concrètement ce que ça me donne comme droit. Celle stationnement, c'est celle qui nous permet d'avoir accès aux places de parking handicapées. Et celle invalidité, elle nous donne la priorité, mais elle permet aussi d'avoir des réductions sur certains billets de train et d'avoir un aidant qui nous accompagne un peu partout et qui, du coup, n'a pas à payer son billet parce que ça veut dire qu'on est invalide et que donc on ne peut pas se déplacer seul et on a besoin de quelqu'un avec nous, quoi.
Tu parles des places, il y a tout un trafic pour avoir des fausses cartes handicapées.
Bon, madame, on ne va pas se mentir. On est d'accord, c'est une fausse carte. Il s'agit d'une vulgaire photocopie.
Une fausse carte pour profiter d'un stationnement gratuit. La conductrice se justifie.
J'ai demandé à un ami comment je peux payer moins cher.
Ce matin, la moitié des conducteurs sont en infraction. La carte mobilité inclusion est réservée aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Elle doit être délivrée par les autorités, mais sur Internet, il s'en vend sans aucun justificatif. Ici pour 100 euros.
Et en plus, ce contrôle-là va minimiser la réalité du vécu des personnes. C'est-à-dire d'un coup, ça va être presque perçu comme un privilège. Là, on parle de droit. C'est un droit, quoi.
C'est un droit et c'est une compensation surtout, en fait. C'est pour dire, ok, vous avez des difficultés en plus parce que la société n'est pas adaptée à vous. Donc, on va mettre en place des choses pour compenser cette oppression, au final, que la société va vous imposer. C'est aussi juste, en fait, des mesures de survie. C'est pas un privilège avec la hache, on peut pas vivre correctement. 1032 euros dans cette économie, ça nous permet pas de vivre, ça me permet à peine de payer le loyer et de faire nos courses, quoi. C'est vraiment juste des mesures de survie. Oui, il y a un peu de contrôle, notamment autour de la prestation de compensation du handicap, qui est une étape en plus de la hache, où en fait derrière tu vas avoir un rendez-vous avec la MDPH et des conseillers pour voir vraiment concrètement dans quoi tu vas utiliser cet argent. Est-ce que c'est pas juste de l'argent de poche en plus? Non, c'est est-ce que tu vas payer des aides à domicile? Est-ce que tu as un aidant familial qu'il faut compenser parce que du coup cette personne peut pas travailler? C'est un processus en plus qui va rajouter des mois et des mois d'attente avant d'avoir de l'aide, des mois durant lesquels tu es dans une situation concrètement de survie parce que tu peux pas travailler, et si tu te forces à travailler, t'es dans des situations de maltraitance et de souffrance énormes.